Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à 14h.
Europe Midi, votre journal.
12h30, 14h.
Wendy Bouchard.
En public et en direct, ce journal est le vôtre. Merci de votre présence en studio à Paris. Merci de vos appels au 39-21 pour interagir avec nos invités sur toute l'information. Et puis sur Twitter, hashtag E1 Midi. Je salue aujourd'hui à midi la présence de lycéens de première ES. Ils nous viennent du lycée en forêt à Montargis dans le Loiret. Merci de votre présence. Vous aussi, vous serez les acteurs de l'actualité. N'hésitez pas à intervenir. Seriez-vous prêt d'ailleurs dans quelques années à accepter un job payé moins que le SMIC, mais pour échapper à l'inactivité du chômage? C'est le débat que vient d'ouvrir Pascal Lamy, ancien directeur de l'OMC. Il souhaite qu'on s'inspire du modèle allemand des mini-jobs. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est le sujet que vous avez choisi de traiter à la une sur Europe1.fr à 60%. On va dérouler ensemble toute l'information et puis à 13h30, vous participerez au débat. Pour relancer l'économie, je vous demanderai si le gouvernement devra plutôt aider en priorité les patrons, c'est le fameux pacte de responsabilité, ou bien les salariés, le pacte de solidarité. Est-ce qu'on a les moyens de financer les deux? Votre avis nous intéresse au 39-21. Il est midi 30 maintenant, je vous donne les grands titres de l'actualité de ce jeudi 3 avril. Et d'abord, la passation de pouvoir à Bercy, le duo Michel Sapin-Arnaud Montebourg a tenté d'afficher l'entente. Ségolène Royal quittera bien la présidence de la région Poitou-Charentes avant l'été, c'est une information Europe 1. Et puis Philippe Tolila, l'homme araignée, de nouveau devant la justice, le violeur en série est accusé d'avoir récidivé 24 ans après sa libération conditionnelle.
Europe Midi, votre journal.
Et voici toute l'info présentée par Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour Wendy, bonjour à tous. La suite des passations de pouvoir au gouvernement avec aujourd'hui la prise de fonction du nouveau duo à Bercy. Arnaud Montebourg pour l'économie, Michel Sapin pour les finances. Duo, on le disait, désir à l'allemande. Oui, mais est-ce que cela va fonctionner chez nous? Michel Sapin, philosophe, disait ce matin, ce qui compte, c'est que ça marche. Anne-Laure Jumet, vous avez assisté à cette passation. Les deux ministres ont souvent employé le « nous » au lieu du « je ». En tout cas, ils ont cherché à démontrer une parfaite entente.
Eh oui, il fallait effacer cette impression de cohabitation au sein même de Bercy. Le nouveau ministre des Finances, Michel Sapin, qui a été le premier à s'exprimer après le passage de témoin de Pierre Moscovici, a voulu mettre fin aux interrogations.
Chacun s'interroge pour savoir comment Bercy peut avoir deux têtes. Je suis toujours étonné parce qu'on ne pose jamais cette question à nos amis allemands. Je vous assure, dans quelques jours, vous ne vous poserez plus aucune question. La seule question que vous vous poserez, c'est « est-ce efficace ?»
Et le ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, n'a lui pas rebondi sur cette question du duo impossible à Bercy, non. Il a plutôt défendu sa partition, la croissance, tout pour la croissance, dans la continuité de ce qu'il a déjà entrepris.
Alors je disais souvent, en redressement productif, nous étions des antidépresseurs, pour nous-mêmes déjà, parce que c'était difficile, ça l'est encore, à la tête du ministère de l'économie. Nous serons des militants de la croissance et des combattants de toute forme de déflation, de récession et d'austérité.
Pas un mot en revanche sur le commerce extérieur. On a appris ce matin que la passation de pouvoir de Nicole Bricq était reportée sine die. Et on attend maintenant l'arbitrage de Matignon pour savoir si cela reviendra à Bercy ou au Quai d'Orsay.
En effet, merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1 en direct de Bercy. Quant à Pierre Moscovici, difficile de le croire lorsqu'il dit qu'il quitte le ministère sans amertume. En tout cas, il n'aspire pas à redevenir ministre et se destine à un avenir européen, peut-être au poste de commissaire européen.
Ouais, le remaniement, on en parle encore Pierre de Villeneuve avec cette information qu'Europe 1 mettait en ligne sur notre site dès 9h30 ce matin. Ce n'était pas vraiment son envie, mais Ségolène Royal renonce à la présidence de la région Poitou-Charentes.
La nouvelle ministre de l'écologie passera la avant l'été. David Doucan du service politique d'Europe 1, c'est vous qui nous apportiez cette information ce matin.
Oui, et cette info mettait un terme à une polémique dont Ségolène Royal se serait bien passée. Tout commence lorsque Marilyn Simonet, c'est la porte-parole de la région et vice-présidente du conseil régional, et elle déclarait à la presse locale que malgré la nomination de Ségolène Royal au gouvernement, elle resterait présidente de région. Que, je cite à nouveau Madame Simonet, tout continuerait comme avant. Stupeur, étonnement, inquiétude au sommet de l'État. Mon Dieu, ça commence ! Se lamente un conseiller de l'exécutif. Mais ce matin, soulagement, Madame Royal a pu clarifier les choses pour clore un épisode embarrassant, parce que si elle n'avait pas renoncé à cumuler présidence de région et ministère, ça aurait été une double contradiction. D'une part, avec la règle édictée par François Hollande dans son anaphore célèbre en mai 2012, et d'autre part avec les déclarations passées de Ségolène Royal elle-même sur le cumul des mandats. Il ne reste tout de même, Pierre, qu'un seul point à éclaircir. Sera-t-elle candidate à sa succession lors des prochaines élections régionales en 2015? Plusieurs de ses proches disent pourquoi pas.
Merci David Doucan du service politique d'Europe 1.
À 12h34, une petite phrase qui fâche maintenant et elle est signée Pascal Lamy.
Celui qui a été le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et qui est un proche de François Hollande, était interrogé par nos confrères de la chaîne parlementaire hier et sur le chômage, voilà ce qu'il propose.
Je sais que je ne suis pas en harmonie avec une bonne partie de mes camarades socialistes, mais je pense que il faut, à ce niveau de chômage, il faut aller davantage vers de la flexibilité et vers des boulots qui ne sont pas forcément payés au SMIC.
C'est-à-dire entre... moins que le SMIC ?
Oui, absolument.
Comme en Allemagne.
Absolument.
Les mini-boulots, les mini-jobs.
Encore une fois, un petit boulot, c'est mieux que pas de boulot. Je ne réponds pas ça dans l'absolu. J'aurais pas dit ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Mais à ce niveau de chômage, je crois vraiment que à crise de ce type, solution de crise de ce type.
Voilà pour les mots de Pascal Lamy hier sur la chaîne parlementaire. Des petits boulots payés moins que le SMIC plutôt que pas de travail du tout. Eh bien, qu'en pensez-vous en période de chômage de masse en particulier? Est-ce l'idée qu'il nous faut pour relancer la croissance de la France? Eh bien, à 13h, on en parle avec l'économiste Jean-Marc Daniel et vous réagissez au 39-21 mais aussi en studio, Pierre de Villeneuve.
Direction Colmar avec l'ouverture aujourd'hui du procès de celui qu'on a appelé l'homme araignée, un surnom qui lui avait été donné car pour violer ses victimes, 11 femmes au total. Il escaladait à l'époque les immeubles jusqu'au 8e étage à main nue. Philippe Tolila a passé 24 ans en prison. Âgé aujourd'hui de 51 ans, il est accusé d'avoir récidivé peu de temps après sa libération conditionnelle en 2011. Frédéric Michel, vous êtes en direct de Colmar. Le procès est à huis clos, mais vous avez pu apercevoir Philippe Tolila au tout début de l'audience.
Effectivement, c'est un homme ordinaire que l'on a pu voir durant quelques minutes, de taille moyenne, les cheveux courts, un bouc grisonnant. Philippe Tolila n'a pas vraiment le look d'un spécialiste de l'avarap. On l'a pourtant surnommé, vous l'avez dit, l'araignée, car dans les années 80, il a surpris 11 victimes violées, 11 femmes et agressées, plusieurs autres de cette manière, condamnées à perpétuité. Philippe Tolila est libéré après plusieurs demandes rejetées. Nous sommes alors en 2011, 24 ans après son incarcération. Et pour la première fois, les experts concluent à une absence de dangerosité. L'araignée semble alors réinsérable. Une association lui a trouvé un emploi, un logement à Mulhouse. En septembre, il obtient un placement dans un foyer. 4 mois après, il récidive et viole une de ses résidentes. Cette fois-ci, il est passé par la porte et n'a pas tenté de fuir lorsque sa victime a donné l'alerte. Il risque maintenant de passer sa vie en prison pour ce viol en état de récidive.
Merci Frédéric Michel en direct de Colmar pour Europe 1.
Voilà, c'est le procès de la récidive dont on parle sur Europe 1 et au cœur de l'actualité, on va revenir sur la réforme Taubira sur la prévention de la récidive justement. Elle devait être adoptée à la mi-avril. Est-elle déjà enterrée puisque reportée sine die? Nous sommes avec le rapporteur Dominique Rimbourg, député socialiste et donc rapporteur de ce texte. Vous l'interrogerez.
Nous vous parlions ce matin de ce prof de français que recherchait désespérément des parents d'élèves à Nogent-le-Rotrou en cause. La titulaire qui est malade depuis le 10 mars dernier et qui ne doit revenir que le 25 avril prochain. Finalement, par le biais d'Europe 1 que visiblement le rectorat a écouté ce matin, eh bien un nouveau prof arrive dès lundi. Nous entendrons la satisfaction des familles d'élèves à 13h.
Vous êtes à l'écoute d'Europe Midi, c'est votre journal, il est midi 37 et d'ici la fin du mois, 25 nouvelles plaintes vont être déposées dans le dossier qui vise le Gardasil. C'est ce vaccin qui prévient le cancer du col de l'utérus.
Et c'est l'avocat Jean-Christophe Coubris qui mène cette bataille avec à la clé ces maladies graves dont étaient victimes plusieurs jeunes filles après avoir pris ce vaccin. Sclérose en plaques, lupus, inflammation du système nerveux. Cette nouvelle offensive contre le Gardasil, qui fait suite à une pétition d'ailleurs de spécialistes ce week-end, inquiète les parents et par conséquent fait diminuer les vaccinations. Il faut arrêter tout cela, estime Bernard Hédon, le président du Collège national des gynécologues. Pour lui, il n'y a aucune preuve scientifique.
La médiatisation, elle est trop souvent, pour ne pas dire toujours, négative, c'est-à-dire que on ne parle pas de tout le bienfait que la vaccination peut apporter dans la prévention du cancer du col, mais quand il y a une pétition de 400 ou 700 praticiens de diverses origines qui, pour des raisons plus idéologiques que scientifiques, parce que scientifiquement ça ne tiendrait pas la route, leur position attire l'attention médiatique, eh bien le tapage qui est fait autour de ça fait un mal important auprès du public qui donc ne se vaccine pas et par là même s'expose donc à un risque qu'il aurait pu prévenir. La France, à cause de l'excès médiatique, de la trop grande importance donnée à quelques-uns, est sur la reculade et a un taux de vaccination qui est vraiment trop faible. En Australie, vous avez 80% de taux de vaccination. Chez nous, c'est inférieur à 30%.
Bernard Hédon, le président du Collège national des gynécologues avec Ève Roger.
On va parler football maintenant avec l'exploit, vous l'avez sans doute suivi ici en studio, du Paris Saint-Germain hier soir. 3-1 face à Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Et est donc une sérieuse option pour une qualification en demi-finale. La cerise sur le gâteau, ça a été ce troisième but incroyable de Pastore dans les toutes dernières secondes du match. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Un détail et pas des moindres, Ibrahimovic blessé n'était pas sur le terrain. Cela veut dire que Paris est magique, même sans Zlatan.
Oui, avouez qu'on a sans sincération, Pierre. Zlatan sera probablement absent mardi prochain à Londres. Pour le match au retour, il est sorti sur blessure en raison d'une contracture à la cuisse après une prestation ratée. C'était le fantôme de Zlatan. Le géant suédois a perdu un ballon à l'origine du pénalty et lorsqu'il est sorti, eh bien, ses coéquipiers ont mieux joué à l'image de Lucas et de Lavezzi. Ça veut dire que quelque chose a changé. L'an dernier, à pareille époque, les Parisiens étaient perdus sur le terrain sans le géant suédois à leur côté, car le PSG est devenu enfin une équipe. En Ligue des Champions, on le sait, ça se gagne à 11 cette compétition. Alors le symbole du succès d'hier soir, effectivement, c'est Pastore. Il n'en revient pas quand Laurent Blanc l'appelle pour rentrer sur le terrain. Lui, le mal-aimé du Parc des Princes, eh bien, après un slalom gagnant dans la surface de réparation, il a inscrit ce troisième but qui change tout. L'entraîneur de Chelsea, Mourinho, est allé d'ailleurs saluer le banc parisien. Certains diront il est fair play, d'autres, et j'en fais partie, pensent que c'est une façon habile de mettre un peu plus la pression sur les joueurs du PSG.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. On reparle du PSG dans les grands débats d'Europe Soir ce soir à 19h15. Sachez aussi que le Real Madrid a battu Dortmund 3-0, Wendy.
Merci beaucoup Pierre de Villeneuve, on vous retrouve à 13h. Voici maintenant Valérie Darmon qui nous rejoint pour la météo et une dégradation pluvieuse qui traverse le pays cet après-midi encore.
Europe Midi, votre journal.
12h30, 14h.
Wendy Bouchard.
En public et en direct, vous interrogez nos invités pour mieux comprendre et pour mieux partager l'actualité jusqu'à 14h. Comment lutter contre la récidive ? C'est le procès de la récidive qui nous donne l'occasion aujourd'hui, vous l'avez entendu, de revenir sur la réforme pénale, la réforme Taubira. Et on se demande si cette réforme repoussée sine die est peut-être déjà annulée ou en tout cas enterrée. Nous avons avec nous Dominique Raimbourg, député socialiste. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous êtes rapporteur de la réforme pénale Taubira justement à l'Assemblée nationale. Alors, nous avons évoqué à la une de ce journal le procès de ce violeur en série, condamné à 24 ans de prison. Il en effectue 21. Il est accusé d'avoir violé une douzième victime. De nouveau, 4 mois après sa sortie, voilà pourquoi la récidive est dans l'air du temps et de ce jour-ci. C'est une affaire qui relance de nombreuses questions. D'abord, que vaut la perpétuité dans les faits si en effet elle n'existe pas ? Elle équivalait à une peine de 24 ans pour cet homme. Et que vaut le suivi des délinquances sexuelles aussi ? Quelle est la vraie question pour vous dans cette affaire qui peut être élargie et questionner nos auditeurs aujourd'hui ?
Il y a deux questions. La première question, c'est celle de la récidive des délinquants sexuels. Les délinquants sexuels récidivent peu, mais quand ils récidivent, c'est toujours assez grave. La deuxième question, c'est comment surveiller et contrôler et suivre les gens à l'extérieur de la prison. Là, nous avons un cas qui est un cas tout à fait particulier, un peu particulier d'ailleurs tellement... Il a un peu tout fait pour se faire arrêter, puisqu'il est allé violer une résidente de foyer dans lequel il vivait. Et on se demande dans quelle mesure il n'a pas un peu cherché à repartir en prison, et parce que sa vie était construite. Il est rentré, si j'ai bien compris, en prison à 22 ans. Mmh. Il en est sorti à 48. Et sauf erreur de ma part, et on se demande un peu s'il n'y avait pas une volonté un peu suicidaire dans ce crime.
Oui, il n'y avait pas de sortie sèche de prison pour cet homme qui a eu de nombreuses expertises, qui était accompagné d'un suivi médical et psychologique. Donc comment mieux accompagner, c'est la question qu'on pose. Que pose la réforme Taubira et comment concrètement elle y répond ?
Tout à fait, c'est une réforme d'ordre. C'est une réforme qui vise d'une part à essayer de faire fonctionner mieux la justice, c'est-à-dire le triptyque police-justice-pénitentiaire qui aujourd'hui fonctionne relativement mal. La justice étouffe et chacun des acteurs de cette justice se plaint de la façon dont ces dossiers sont traités. Excusez-moi.
Je vous en prie.
La réforme vise donc à essayer d'organiser un suivi plus intensif, c'est ce qu'on appelle la contrainte pénale. Et puis la réforme aussi vise à répondre à quelque chose qui aujourd'hui pose problème, la circonstance que 80% des détenus sortent de prison sans aucun contrôle. C'est ce qu'on appelle les sorties sèches. Donc il faut monter en puissance de façon à ce que personne ne sorte de prison sans un suivi, un contrôle.
Alors que pensez-vous de cette réforme de lutte contre la récidive ? Dominique Raimbourg en est le rapporteur et député à l'Assemblée. On a beaucoup de messages, je dois dire, alors peut-être parce qu'on ignore le contenu encore dans le détail, mais messages négatifs sur les réseaux sociaux. Mireille sur Twitter nous dit que c'est une réforme dangereuse. Magritte nous dit que c'est une réforme pénale laxiste. Beaucoup de craintes et je crois que la crainte est partagée par François qui nous appelle de l'Eure à Guerny. Bonjour François.
Bonjour Wendy.
Et merci de nous rejoindre sur ce sujet de cette réforme pénale. Qu'en pensez-vous, vous, sur le fond, à la lumière de ce procès de la récidive aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, je n'ai pas lu en détail la réforme, mais ce que j'ai pu
en suive, c'est que je suis effaré par le laxisme. Je suis effaré par l'abandon des peines planchers. Je suis effaré par l'attitude de Madame Aubira, en particulier dans ses mensonges publics tout récents. Je suis surpris qu'on la remette dans son poste en ayant obtenu, semble-t-il, dans une négociation, qu'elle abandonne ce projet de loi pour lequel elle s'est battue pendant des mois.
Ça devrait vous rassurer, puisque vous le jugez laxiste, ce projet, qui est reporté sine die, en effet.
Oui, oui. Ça me rassure, mais ça ne me rassure pas qu'on prenne la même. Elle n'a pas réussi, son projet est abandonné, mais néanmoins, on la maintient dans son poste. Ouais. C'est quand même très choquant.
Merci François pour ce témoignage. Vous évoquiez, François, les peines planchers. Alors c'est intéressant, Dominique Rimbaud, parce que ce projet revient sur les peines planchers qui ont été mises en œuvre sous Nicolas Sarkozy. La peine plancher, c'était une peine de prison minimale en cas de récidive. C'est-à-dire qu'il y avait un barème qui était le même affiché pour tous. Vous êtes monté au créneau parce que ça cassait l'individualisation des peines pour vous. Et justement, la justice, ça doit être individualisée. Peine plancher, c'est sûr. On revient sur la mesure dans ce projet ?
Tout à fait, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et j'entendais votre auditeur, aujourd'hui, rien n'a beaucoup changé en matière de justice. Et pour autant, il parle de laxisme. C'est donc qu'il faut une réponse qui soit une réponse beaucoup plus efficace. Et c'est l'efficacité de la justice qu'il faut viser.
Alors, quand on parle de laxisme, souvent, on a envie simplement de s'occuper du carcéral et pas de la contrainte pénale soignée en milieu ouvert.
Et oui, alors c'est pas seulement ça. 90 000 personnes, grosso modo, entrent en prison chaque année. Et 90 000 personnes en sortent. Donc la question, c'est comment suivre et surveiller ceux qui en sortent. Et je répète, il y en a 80% qui sortent sans aucun suivi. Donc le but, c'est de mettre en place la fin des sorties sèches, à terme, parce que c'est faut quand même monter en puissance. La deuxième chose, c'est que les peines planchers n'ont pas fonctionné. Les peines planchers, sur 5 ans, 42 000 peines planchers ont été prononcées. Dans le même temps, les tribunaux correctionnels prononçaient 3 millions de condamnations. Ce qui veut donc dire que c'est quelque chose qui est un gadget.
Ça n'a pas influé sur la récidive, sur le taux de récidive.
Ça n'a pas influé du tout sur le taux de récidive.
François, vous vouliez revenir dans cet échange. Dominique Rimbaud vous écoute.
Je voudrais revenir sur les victimes, parce qu'on les oublie tout le temps. Et je voudrais revenir sur, évidemment, le manque de place dans les prisons, mais toutes les places qui sont occupées par des gens qui ne sont absolument pas dangereux pour la société, qui doivent être punis parce que ils ont fait des fautes. Je pense tout récemment à Kerviel. Il va probablement faire 3 ans de prison. Bon, c'est peu probable, mais il est condamné à 3 ans de prison.
Mais vous avez raison, François. Je vais vous donner un chiffre. Alors, il vient du ministère de la Justice et il nous a interpellés dans la préparation ce matin. 78% des peines d'emprisonnement ferme sont prononcées pour des délits, des peines inférieures à 1 an. Ça, c'est la réalité que pointe du doigt cet auditeur, Dominique Rimbaud, c'est une réalité que vous constatez.
C'est une réalité que je constate et on pense que les très courtes peines de prison ont un effet plus désinsérant qu'un effet efficace. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui font des très courtes peines sont forcément des gens faciles à vivre. Parce que souvent les courtes peines sont prononcées à l'issue de la 3e, de la 4e ou de la 5e condamnation. C'est précisément le but de la réforme, essayer d'être beaucoup plus efficace, d'encadrer, de surveiller et de contrôler plus pour enfermer moins. Oui. Parce que enfermer n'a pas forcément l'efficacité que l'on espère. La prison n'est pas le lieu magique où par une opération du Saint-Esprit, le délinquant se dissoudrait dans la nature.
Oui, monsieur, vous voulez prendre la parole en studio. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Vous citiez à l'instant les courtes peines. Non, une personne qui se fait arrêter 3, 4, 5 fois, condamnée à une courte peine, ne va pas en prison. Alors qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la victime ou les victimes qui vont croiser le type dans la rue le lendemain et qu'ils le voient dehors se balader et se pavaner, sont pas très contentes, sont pas très satisfaites. Donc je sais pas moi. Maison de correction.
Alors, quelle est la réponse
sur des vieux trucs, mais je ne sais pas.
Alors, d'abord, il y a beaucoup de délits qui n'ont pas spécialement de victimes. Il ne faut pas non plus se focaliser. Je vous ai dit tout à l'heure, 600 000 condamnations par an, grosso modo 70 000 condamnations pour des coups et blessures avec des victimes. Donc, il y a des condamnations sans victimes. Il y a 120 000 condamnations par an pour de la conduite sous l'empire de l'alcool sans aucun accident.
Donc là, vous voulez vider les prisons de ces délinquants-là, par exemple, pour les faire suivre comment ? En centre rétention de sûreté, dans des centres alors, médicaux, le but, judiciaires.
Alors, le but, c'est qu'il faut, traiter les cas individuellement, hein, et voir si on a une possibilité de réinsertion. Il faut, un, payer les dommages et intérêts à la victime. Deux, s'assurer que la victime ne croise pas effectivement l'auteur et que s'il y a une interdiction de paraître dans un lieu, eh bien que l'auteur ne retourne pas dans le quartier où habite la victime ou ne retourne pas dans l'immeuble. Mais ça suppose un contrôle. Donc, et de toute façon, ne rêvons pas, la courte peine, à un moment donné, l'intéressé, il ressort. Il faut bien avoir ça en tête, l'intéressé, il ressort. Le but, ce n'est pas de supprimer toutes les courtes peines, oui, c'est de faire en sorte qu'on ait une efficacité de la justice et une efficacité du contrôle.
Pardonnez-moi, mais vous dites, on le change de quartier, comme ça, il retombera pas sur ses victimes. Mais c'est pas ça la solution. Enfin, de mon point de vue. La solution, c'est qu'il faut le punir. Donc, on punit comment? Je disais à l'instant maison de redressement. Bon, c'est un terme qu'il y avait quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais il doit y avoir des structures pour accueillir et enfermer et réinsérer
ces gens-là. Est-ce que c'est prévu dans
ce
projet, Taubira?
Mais quelque chose qui puisse se faire. Ségolène Royal, à une époque, avait parlé de ça, me semble-t-il.
Alors, Ségolène Royal avait parlé de l'encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Mais en aucun cas, cette loi vise à supprimer la punition. La punition est absolument nécessaire parce que c'est le signe envoyé à la société que le délit est inacceptable. Ce que l'on constate aujourd'hui simplement, c'est le fait que ça ne fonctionne pas comme ça devrait et qu'on a des gens qui vont et qui rentrent et qui sortent de prison. Et il faut rendre la prison plus efficace, il faut rendre le contrôle et la surveillance à la sortie beaucoup plus efficaces, et c'est pour ça que la loi a prévu que soit associé à la surveillance et au contrôle, les forces de police qui aujourd'hui et de gendarmerie qui aujourd'hui ne savent absolument pas, un, qui sort de prison, deux, quelles sont les interdictions qui pèsent sur les sortants de prison.
Dominique Raimbourg est avec nous, député socialiste, rapporteur de la réforme pénale Taubira, ce projet pour la lutte contre la récidive. Que faire justement pour éviter cette récidive? Dites tout ce que vous en pensez au 3921. Un expert ici vous répond et vous avez la parole en studio. À tout de suite.
Europe Midi, votre journal. Wendy Bouchard.
En public, en direct, 13h jusqu'à 13h, ce premier sujet, alors que Christiane Taubira conserve son portefeuille de la justice, nous sommes en plein procès de la récidive. Comment avoir confiance dans les dispositifs, notamment qu'elle souhaite créer de contraintes pénales, c'est-à-dire qu'on exécute ses peines en milieu ouvert et pas en prison en cas de récidive, lorsque les peines sont inférieures à 5 ans. Nous avons ici Dominique Raimbourg, député socialiste, rapporteur de cette réforme pénale qui est pour l'instant reportée sine die, alors qu'elle devait être votée en séance le 14 avril. Et des questions pour vous, monsieur le député, mademoiselle en studio.
Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis assez inquiète, notamment par rapport à l'étude dont on a entendu parler, qui a été réalisée au Brésil. Donc, je ne sais pas si...
Non, c'est quoi cette étude? Allez-y, éclairez-nous.
Alors, en fait, c'est une étude qui dit que selon la majorité des hommes au Brésil, ils considèrent que quand une femme est habillée de manière provocante, elle mérite d'être violée. Donc, ça installe un climat très inquiétant. De par le monde, on a entendu depuis un certain temps des affaires qui ne cessent de se répéter de plus en plus vite. Donc c'est inquiétant, et quand on voit que quand quelqu'un est arrêté et qu'il est reconnu coupable, parce que déjà pour les victimes de réussir à se faire entendre, c'est très dur, bien souvent, notamment en France, on commence par leur dire qu'elles sont des menteuses et qu'elles l'ont cherché. Donc à partir du moment où déjà l'homme est arrêté et qu'il a été en prison, et qu'il en ressort et qu'il recommence, c'est juste incompréhensible. Il y a quand même des psychologues qui doivent pouvoir faire un travail à sa sortie de prison pour être sûr qu'en sortant, il ne va pas recommencer. Je veux dire, il y a des analyses qui doivent pouvoir être faites. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait, tout simplement. Sans parler même de pourquoi est-ce qu'il sort ou s'il a été gentil en prison. Personnellement, je pense que le problème, il n'est pas là. Il y a des système de castration chimique qui existe, on n'entend jamais parler en France. Qu'est-ce qu'on fait justement pour ces cas de viol? Parce que c'est de ça dont on parle.
Alors,
normalement.
Oui, la délinquance sexuelle et la récidive en matière de délinquance sexuelle. Mademoiselle, voilà, a donné quelques émotions à ce sujet encore, Dominique Raimbourg.
Alors, un, le projet de loi ne concerne pas les crimes, il concerne dont le régime n'est pas changé. Mais ce qui est important, c'est qu'on va essayer de suivre mieux. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien. La preuve, Donc le but, c'est d'essayer de trouver un consensus et qu'on cesse de batailler trop fort autour de ces questions-là. Ça marche assez mal. Il faut faire des progrès. Alors, ce qui se passe au Brésil, c'est tout à fait scandaleux, mais c'est autre chose. Il faut faire des progrès. J'ajoute que, en matière de viol, et ça c'est quand même important, la majorité des viols ne sont pas commis par des hommes que l'on croise par hasard dans la rue. La majorité des viols sont des viols intrafamiliaux. C'est-à-dire qu'en clair, on est violé par sa famille et ses amis. Mmh. Et la plupart du temps, la victime connaît l'auteur du viol.
En tout cas, se pose la question des moyens pour aller plus loin dans la prise en charge des détenus. C'est ce que nous disait aussi Franck, qui nous appelait de Nîmes comme mademoiselle. Ça, c'est au cœur de ce projet Taubira. Plus de moyens et d'outils à disposition de cette justice.
Alors, plus de moyens, c'est l'embauche promise de 1000 conseillers d'insertion et de probation qui vont porter le nombre de gens, de conseillers de 4 à 5000, ce qui est important, à mon avis toujours insuffisant, mais ce qui est important. Ce qui est important également, c'est d'associer les forces de police, parce qu'on inscrira les interdictions sur le fichier des personnes recherchées,
oui.
Ce qui fait qu'il y aura un vrai contrôle. Mais c'est un projet, ça encadre des pratiques, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à l'amélioration de ce système. Alors, le système ne vise pas à échanger toutes les courtes peines de prison contre de la contrainte. Le système vise à essayer de trouver un certain nombre de détenus, de gens qui sont condamnés à de la prison, et de rendre effective l'exécution de la peine, et dans certains cas, de dire « Monsieur, plutôt que de vous incarcérer, on va vous contrôler, vous surveiller », ce qui déplaît parfois à certains, au point qu'on a des gens qui refusent de sortir de prison si on les fait sortir en les contrôlant.
Merci beaucoup Dominique Rimbourg, et on reparlera de cette réforme Taubira, reportée pour le moment, mais pas enterrée. Comme le dit Christiane Taubira, il est 13h01. Je vous remercie pour votre fidélité. On parlera des petits jobs, des mini-jobs tout à l'heure, juste après le rappel de l'info avec vous, Pierre Devineau.
Le duo Sapin-Montebourg installé à Bercy, nous partagerons toutes les décisions, dit le ministre des Finances Michel Sapin. À l'économie, Arnaud Montebourg indique, nous serons des militants de la croissance. Un « nous » qui revient et qui est destiné bien sûr à apaiser les rumeurs de mésentente entre les deux hommes. Quant à Pierre Moscovici, le ministre sortant, il quitte son ministère. Sans amertume, c'est en tout cas ce qu'il dit, pour un destin ou en tout cas des ambitions européennes.
Je souhaite maintenant, en accord avec le président de la République, me tourner vers la préparation, s'il en décide ainsi, d'autres responsabilités au service de la France et de l'Europe. Je sais que l'Europe agace, je sais que l'Europe irrite, je sais que l'Europe déçoit, mais en même temps, personne ne peut la considérer comme une simple contrainte extérieure. Personne ne doit la voir comme un carcan. Et je le dis avec beaucoup de conviction, avec passion, avec engagement. Non, il ne faut pas rejeter l'Europe. Il faut changer l'Europe. Il faut réorienter l'Europe. Et c'est tout à fait différent. J'ai foi dans cette Europe, mais pour ça, il faut qu'elle se tourne vers la croissance et l'emploi.
Pierre Moscovici avec Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Information d'Europe 1 ce matin, Ségolène Royal quittera la présidence de la région Poitou-Charentes avant l'été. Elle se range sur la ligne de conduite instaurée par François Hollande dès sa prise de fonction en 2012, consacrée tout son temps aux tâches ministérielles quand on est ministre. Ce matin sur Europe 1, nous vous parlions de ce prof de français que cherchaient désespérément des parents d'élèves à Nogent-le-Rotrou. Ils ont fini par mettre une annonce sur le bon coin. En cause, la titulaire qui est malade depuis le 10 mars dernier, qui ne doit revenir que le 25 avril. Il faut croire en tout cas, que le rectorat a écouté Europe 1 ce matin, car un nouveau prof a appelé le collège. Il arrive lundi. Depuis, nous avons recontacté les parents d'élèves. Écoutez Gaëlle Charles, la présidente de l'association des élèves du collège Arsène Meunier.
On l'attend, attendez. On n'est que jeudi, voilà. Nous, on reste vigilants jusqu'à lundi matin.
Alors, est-ce que vous croyez que l'annonce a porté ses fruits ?
Ah bah oui, bah c'est clair. Je pense qu'il y en a qui ont dû tomber de leur chaise au rectorat ce matin. Hein.
C'est-à-dire ?
Bah d'entendre ça sur Europe, que des parents d'élèves mettent une annonce sur un site de petite annonce, quoi.
Vous pensez que la médiatisation de l'affaire a fait que ?
Tout à fait, ouais. Ah oui, persuadé. Pour nous, on partait vers jusqu'à fin juin, pas de cours de français, quoi. Donc on s'est dit, il n'y a pas, faut qu'on bouge pour nos enfants. Je regrette pas qu'on ait fait cette action-là pour médiatiser au maximum. Mais je pense que d'autres collèges, d'autres lycées de France ont le même problème que nous en ce moment. Et eux, comme ça n'a pas été médiatisé, eux, ils courent après les profs, quoi.
Gaëlle Charles avec Sébastien Guillaume. Alors justement, pour tous ces parents désespérés, il y a un site internet, c'est ouyapacours.fcpe.asso.fr. Ouyapacours en langage un peu Jones, hein, donc vous retrouverez ça sur le site d'Europe1.fr. Le violeur en série Philippe Tolila, l'araignée comme on l'a appelé, parce qu'il escaladait les immeubles de ses victimes, jugé à Colmar, il a violé 11 femmes dans les années 80 et est accusé d'avoir récidivé après sa libération conditionnelle en 2011. Depuis ce matin, si vous avez une idée de vos dates de vacances d'été, si vous souhaitez vous y rendre en train, la SNCF a mis en vente 1 400 000 billets pour juillet-août, des billets Proms au prix attractif, aussi pour détonner avec les prix du TGV qu'on juge assez chers. Lors d'Autriche, ce matin, ça s'est bien vendu ?
Oui, ça s'est bien vendu. La SNCF explique qu'il y a eu ce matin 25% de billets vendus en plus si l'on compare à l'an dernier, le jour où ces billets avaient été mis en vente. Alors, il y a des offres intéressantes. On vous propose des billets Paris-Marseille à 25€, Lille-Lyon 25€ également, Paris-Deauville pour 15€ en plein cœur de l'été. Mais il s'agit là de produits d'appel, explique Willy Collin, porte-parole de l'AVUC, une association d'usagers. L'idée de la SNCF, c'est de mettre en avant que le TGV est abordable, dit-il, mais tous les autres billets sont beaucoup plus chers.
La SNCF fait croire qu'elle casse les prix. Mais ce sont des offres qui sont réduites. Ça concerne des destinations toujours les mêmes. On est sur des offres tête de gondole. Et puis derrière, vous avez un ensemble d'offres avec des prix qui sont largement au-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi la SNCF pratique de la sorte ? Parce qu'elle voit une concurrence très très importante se profiler. C'est la concurrence du covoiturage. Il y a aujourd'hui des agences spécialisées qui proposent des Paris-Rennes, des Paris-Nantes, des Paris des Paris-Marseille, 3 fois moins cher.
Alors, une précision concernant ces billets à prix réduit mis en vente depuis ce matin pour le mois de juillet et le mois d'août, ce sont des billets Proms et donc ils ne sont ni échangeables ni remboursables.
Merci Lord Autriche. Le PSG bat Chelsea 3-1 en quart de finale aller de la Ligue des Champions sans Zlatan qui était blessé. Une belle option pour une qualification en demi-finale. Le PSG, il en sera question à 19h15 dans les grands débats d'Europe Soir. Wendy.
Merci beaucoup Pierre de Villeneuve. On vous retrouve à 14h pour toute l'info qu'on a le plaisir de partager avec vous au quotidien. Valérie Darmon nous a rejoint. Alors pour la météo de demain, qu'est-ce que ça donne d'abord ?
Wendy Bouchard.
Mais d'abord, vous savez que vous êtes en public. Merci les acteurs de l'actualité de ce journal et qu'à 60%, vous avez souhaité revenir sur cette petite phrase qui fait mouche, cette proposition de Pascal Lamy. On l'a réentendu sur Europe 1 à midi et demi, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, proche de François Hollande, qui hier soir a plaidé et à midi encore pour plus de flexibilité du marché du travail avec des petits boulots, payés moins que le SMIC pour donner des jobs à plus de Français possible. Alors au 39-21, dites-nous ce que vous en pensez. Vous êtes déjà très nombreux à nous appeler et j'avoue que vos argumentaires et que vos positions sont très mitigées, autant de positifs que de négatifs, et on essaye de décrypter tout cela avec Jean-Marc Daniel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, membre du think tank l'Institut de l'entreprise. Je vais citer quelques-uns de vos ouvrages tout à l'heure. Alors on nous reproche des sujets un peu démagos sur Internet, mais je dois dire que c'est une proposition qu'on relaie, une proposition intéressante en période de chômage de masse, vous la retenez comme telle, qu'en dites-vous à midi ?
Oui, je pense qu'il y a deux façons d'aborder cette proposition. D'abord, il y a la façon un peu de provocation, parce que l'idée qu'on va faire des petits boulots, on a déjà essayé le CPE, on a déjà essayé le SMIC jeune, et à chaque fois, ça s'est heurté à la révolte de la jeunesse et aux difficultés avec la population. Donc je crois que sur le plan purement de la communication, M. Pascal Lamy peut se permettre de dire ce qu'il veut, mais ça n'aura pas d'impact, puisqu'il n'est pas directement aux affaires. Sur le fond, je pense qu'effectivement, quand on regarde la situation du chômage dans ce pays, on a quand même un niveau de chômage qui dépasse maintenant les 3 millions. Oui. On a une situation de chômage qui devient une aberration en Europe. C'est-à-dire qu'en Allemagne, le taux de chômage est 2 fois moins important qu'en France. Au Royaume-Uni aussi, on tend vers le plein emploi. Et quand on analyse les gens qui sont au chômage, vous avez les personnes, ce qu'on appelle les seniors, qu'on appelait autrefois les vieux, mais maintenant c'est les seniors. Et puis, vous avez les gens qui rentrent sur le marché du travail. Oui. Et ces gens qui rentrent sur le marché du travail, on le masque par des emplois dits d'avenir qui, à mon avis, sont plutôt des emplois dépassés. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est effectivement de permettre dans cette frange de jeunes qui ont été formés, qui ont été préparés au marché du travail, de leur permettre de mieux s'insérer sur le marché du travail. Et la seule solution, c'est de leur permettre d'avoir une période de SAS pendant laquelle effectivement, ils coûteront moins cher que ce qu'est à l'heure actuelle le coût du travail.
D'accord. Donc déjà, vous limitez cette mesure à la population la plus jeune, peut-être la moins qualifiée, parce qu'on a, des auditeurs d'âge très variés qui nous appellent ici. Mais je vais commencer par la plus jeune, c'est Lauriane. Elle a 29 ans et vous nous appelez du Puy-en-Velay. Bonjour Lauriane.
Oui.
Et je vous fais réagir à ces boulots, voilà, ces petits boulots. Est-ce qu'il vaut mieux un boulot mal payé que pas de boulot du tout ? Dites-nous ce que vous en pensez.
Là, ce qu'on nous propose, en fait, c'est un peu la peste et le choléra. Et puis quand j'entends ce que ce monsieur vient de dire, ça me hérisse fortement. Ça fait plus de 10 ans que je travaille. Moi, j'ai même commencé à accompagner mon père dans son entreprise pour donner un coup de main à 12 ans. J'ai commencé à être déclarée vraiment à 25 ans, c'est-à-dire après avoir travaillé pendant plus de 5 ans, 7 ans même. J'ai été essentiellement payée au SMIC quand j'ai été déclarée. J'ai fait de la télévente, j'ai été commerciale en rapportant pas mal d'argent aux boîtes dans lesquelles je suis passée. Mmh. Et il m'a fallu quand même 8 ans d'expérience professionnelle pour décrocher un véritable CDI où je bosse avec des gens qui ont bac plus 5, qui sont trilingues et où on est payé au SMIC.
Oui, donc alors, ça ne ferait qu'empirer ce cercle vicieux du sous-paiement, si j'ose dire, pour vous.
Ça ne ferait que continuer de tirer les salaires vers le bas. Mmh. Je disais au standard que, monsieur Lamy prend l'exemple de l'Allemagne, c'est complètement désastreux. En Allemagne, ils ont été obligés d'annuler la mesure du salaire à 1 euro de l'heure, parce que avec justement cette possibilité de descendre en dessous de certains seuils pour le salaire horaire, ils ont généré 25% de travailleurs pauvres.
Alors, c'est la question qu'on va relayer, Lauriane, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs encore, mais merci pour votre témoignage. À Jean-Marc Daniel, vous qui êtes économiste, c'est exact ce qu'elle dit. Plus de travailleurs peut-être, mais plus de travailleurs pauvres en Allemagne.
Oui, alors, face à cette interrogation qui est assez légitime, et face à ce qui vient d'être dit, je ferai là aussi trois remarques. La première remarque, c'est que le fait d'acquérir un diplôme ne crée pas le besoin des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que déjà dans la lettre à tous les Français de 1988, François Mitterrand disait, ce sont les entreprises qui créent l'emploi et la croissance économique, et donc c'est dans les entreprises que se trouve la solution, et donc c'est en laissant les entreprises s'oxygéner, en leur laissant une certaine capacité de choix, qu'on peut trouver des emplois. La deuxième remarque que je ferai, c'est que il y a de plus en plus de sociétés où on déconnecte effectivement, pour résoudre ce problème des working poor, des travailleurs pauvres, on déconnecte le revenu minimum du salaire minimum. C'est-à-dire que là aussi, c'est un outil qui avait été mis en place par les socialistes, puisque c'était à l'époque où M. Fabius était ministre de l'économie et des finances, c'est la prime pour l'emploi. Donc cette prime pour l'emploi, elle a eu un destin plus ou moins structuré, elle est plus ou moins remise en question au travers de sa fusion avec le RSA. M. Hérault voulait la revaloriser, mais ça a disparu dans l'héritage, je ne sais pas très bien où on en est. Mais derrière cette idée, il y a quand même une différence entre... Il y a l'idée qu'effectivement, une société peut se définir comme un niveau minimum de revenus que doivent avoir les membres de cette société. Ça relève de la solidarité. Et puis, il y a l'efficacité économique qui suppose que les gens soient payés à hauteur de ce qu'ils produisent réellement. Mmh. Et la troisième remarque que je ferai, c'est que dans les systèmes qui sont les systèmes qui marchent le mieux, on s'aperçoit que soit le système scolaire est très exigeant, très sélectif. Et à partir de ce moment-là, les gens qui embauchent savent exactement quelles sont les compétences. Et à partir de ce moment-là, on a un niveau d'emploi des jeunes qui est assez élevé. Soit le système scolaire est assez peu sélectif, mais à ce moment-là, au niveau de l'embauche des jeunes, il y a une grande liberté de licenciement. Le problème de la France, c'est qu'on a un système scolaire qui est peu sélectif, avec des contraintes de licenciement très fortes, donc on a du chômage.
Et on a du chômage, voilà, pas assez de flexibilité justement. Alors ça fait énormément réagir ces petits jobs plutôt que le chômage. Sur Twitter, hashtag E1Midi, qui est-il, Pascal Lamy, pour dire cela? Gagne-t-il plus ou moins que le SMIC? Voilà ce que nous dit Ludovic. Vanessa est aussi très remontée qu'il essaye de vivre avec un SMIC avant de faire des recommandations à des millions de travailleurs. Et on va voir ce que vous en pensez aussi en studio. Monsieur, vous avez le micro.
Bonjour. Oui, je crois que la France a besoin d'un choc psychologique. En fait, le marché du travail est sclérosé actuellement. Donc, tout le monde a peur de perdre son travail, de gagner moins, etc. Donc, il faut inverser la tendance. Et je crois qu'il faut des mesures, justement, où on remet maximum de gens sur le marché du travail, quitte à sacrifier sur le salaire. Ça crée un premier choc. Et après, on revient éventuellement, on reprotège le salarié pendant un an ou deux, il n'y a pas besoin de faire des choses définitives. On peut tenter des...
Vous travaillez, vous, monsieur?
Oui, tout à fait.
Vous seriez prêt, si jamais vous n'aviez pas de travail à le faire?
Je parle pour les jeunes, toujours.
Oui, pour les jeunes, d'accord. On est bien d'accord sur cette catégorie sociale.
De façon massive, bien sûr, ils ne vont pas gagner. Mais après, il faut bien sûr voir comment ça se passe, mais créer ce choc pour redynamiser le marché du travail.
Eh bien, vous engendrez un autre discours positif sur le sujet, celui de Jean-Marie, qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour, Jean-Marie.
Oui, bonjour.
Que pensez-vous de cette proposition?
Bah écoutez, moi je crois, j'ai un point de vue assez simple, c'est qu'il faut éviter à tout prix que les personnes décrochent du marché du travail. C'est le plus catastrophique. Je pense qu'il y a un vivier considérable d'emplois chez les petites et moyennes entreprises. L'entrepreneur n'ose pas embaucher, n'ose pas franchir le pas par crainte de se retrouver en sureffectif en cas de baisse de charges. Et c'est là qu'il faut que l'État vienne en aide au niveau du salaire pour que ces emplois possibles soient occupés, alors que pour l'instant, on connaît tous des artisans autour de nous qui hésitent à faire le pas parce que les lois du travail sont beaucoup trop rigides.
Donc en plus du pacte de responsabilité, ça pourrait être une idée. Alors Pascal Lamy a lancé cela, c'est un ami de François Hollande, mais ça pourrait être une idée à adosser pour les plus jeunes, Jean-Marc Daniel.
Oui, je pense que dans ce qui vient d'être dit, ce qui est important, c'est qu'effectivement, qu'il y ait une capacité d'adaptation permanente des entreprises à la réalité conjoncturelle.
Qui n'existe pas aujourd'hui.
Alors qui est en train de se mettre en place? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du pacte de responsabilité. responsabilité, mais l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, avait été signé ce qu'on appelle l'ANI, l'accord entre les syndicats et les entreprises, pour assurer plus de flexibilité dans le fonctionnement du marché du travail, et justement pour faire en sorte que les entreprises puissent passer les périodes de ralentissement conjoncturel sans avoir à licencier. Et d'ailleurs, les économistes ont un jargon bizarre, et donc ils emploient un mot qui est une espèce de barbarisme, qui est mobication, c'est-à-dire la contraction entre mobilité et éducation. Mmh. C'est-à-dire, on sortira de cette période de chômage, et là je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire en agissant, en acceptant l'idée d'un côté qu'il faut être mobile, et de l'autre qu'il faut faire des efforts considérables d'éducation, mais une éducation professionnalisante, c'est-à-dire une éducation qui correspond à la réalité de la société dans laquelle nous vivons.
Nous avons Marc sur Europe1.fr qui nous dit « À quoi serviraient ces mini-jobs? À faire baisser les statistiques du chômage ou à vraiment créer des emplois dans des différents créneaux ?»
Alors je pense que là, c'est une excellente question parce que finalement, les emplois d'avenir, ça fait baisser les statistiques sur le chômage et ça ne crée pas de richesse, ça ne crée pas de réalité de croissance. Parce que l'enjeu ultime de tout ça, c'est d'avoir de la richesse à distribuer. C'est-à-dire la réalité ultime de l'économie, c'est de faire en sorte que la situation, le pouvoir d'achat, la situation globale du pays s'améliore. Et donc, les emplois qui consistent à employer les gens pour les employer, à leur donner un statut indépendamment de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, à mon avis, c'est des mauvaises mesures. En revanche, dire aux gens, écoutez, vous êtes dans une situation qui est une situation amoindrie pour diverses raisons, vous êtes dans une situation où votre capacité n'est pas utilisée telle qu'elle devrait l'être, on va vous permettre de le faire. À ce moment-là, ça, c'est la bonne solution.
J'aurais juste qu'on entende avec vous, Christelle, on réagit à cette proposition des mini-jobs pour payer moins que le SMIC pour rendre le marché du travail plus flexible. Nous avons Christelle qui est au chômage et qui nous appelle du Finistère. Bonjour Christelle, on va terminer avec votre témoignage.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc j'ai 43 ans, donc je suis déjà considérée comme senior. Donc je ne me trouve pas en âge d'être senior. Ça devient difficile parce que je suis une femme en plus sur le marché du travail. Donc j'ai une famille à charge et déjà au SMIC, on a du mal à s'en sortir. Alors un sous-SMIC, ce serait compliqué. D'autant plus que ça fait 20 ans que je travaille, j'étais dans le commerce. J'étais payée au-dessus du SMIC, 20 centimes au-dessus du SMIC. Mmh. La convention collective voulait que le taux du SMIC soit inférieur au SMIC. Donc obligation de me payer au SMIC. Mais on me disait toujours que je n'aurais pas d'augmentation de salaire parce que j'avais déjà un taux horaire supérieur au taux de ma convention. Donc, je suis restée au SMIC toute ma vie.
Oui, et vous considérez voilà, qu'un petit boulot comme ça pour vous remettre au travail, vous n'assumez pas et vous préférez vivre des indemnités chômage, c'est plus digne pour vous, j'imagine aussi.
Ben oui, parce que je vaux quand même quelque chose.
Oui,
vaux déjà plus que le SMIC. Alors, j'ai été payée au SMIC. Alors, puis être payée au SMIC.
Merci beaucoup, Christelle, pour ce témoignage. On en termine quelques mots, Jean-Marc.
Oui, en deux mots. Effectivement, à 43 ans, on n'est pas un senior. À 43 ans, on n'est pas perdu pour le marché du travail. Et donc, il faut absolument trouver un moyen de réinsérer cette jeune femme sur le marché du travail. Or, elle vit avec l'UNEDIC. Une UNEDIC qui va dépasser 20 milliards d'euros d'endettement cette année. Une UNEDIC qui accumule les déficits. Donc, elle vit, et c'est pas elle qui est responsable, c'est ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui n'ont pas mis en place une politique qui lui permet d'avoir un emploi. Ce sont ceux qui maintiennent ce système dans lequel on va d'assistanat en assistanat, avec un SMIC qui fait que 10% des salariés sont au SMIC, avec une situation, encore une fois, où le pays ne crée plus de richesse.
Et vous souhaitez la flexibilité, on en reparlera en votre compagnie, Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup, merci à Mélanie, Claude, Gilles au Standard notamment. Je cite votre livre, 8 leçons d'histoire économique chez Odile Jacob, paru en 2012. Merci de votre présence, monsieur. On se retrouve dans un instant pour parler peut-être d'un nouveau scandale de l'amiante. Au 3921, vous réagissez à ces 3 millions de HLM contaminés.
Europe Midi, votre journal. Wendy Bouchard.
En direct, en public, merci de votre présence. Un troisième sujet qui relaie une enquête Europe 1, on vous l'a livré depuis hier. 3 millions de HLM contaminés à l'amiante, 10 millions d'habitants en France. Comment en sortir? Si vous avez vécu cette expérience ou que vous êtes dans un de ces logements concernés, eh bien vous nous appelez au 3921. On en parle avec Maître Michel Ledoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Question peut-être naïve si je vous la pose, mais saviez-vous qu'il y avait encore des dizaines de milliers d'immeubles amiantés en France?
Ça ne fait absolument aucun doute, puisque le flocage, par exemple, des immeubles d'habitation n'a été interdit qu'à partir de 1978. Et donc, la plupart des immeubles des HLM ont été construits avant et donc contiennent indiscutablement de grandes quantités d'amiante.
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'après ce scandale de l'amiante, Jacques Chirac a fait interdire ce matériau en 1997. Les travaux de désamiantage ont été engagés. Je signale qu'entre 1965 et 1995, 35 000 personnes en France sont décédées de l'inhalation des fibres d'amiante, qui étaient évidemment cancérigènes. L'interdiction, très bien. Le désamiantage, c'est bien le problème. Ça coûte extrêmement cher en France.
Oui, c'est-à-dire qu'on rénove effectivement, et à juste juste titre ces immeubles, ces fameux HLM. Et à l'occasion de cette rénovation, tous les budgets explosent. Car il y a non seulement de l'amiante par flocage, vous savez que quand on a construit les HLM, ce sont des immeubles à structure métallique, et pour éviter que ces immeubles s'effondrent en cas d'incendie trop rapidement, permettre d'évacuer, on badigeonnait les structures métalliques d'un mélange de ciment et d'amiante.
Voilà, donc il y en a de là-dedans, dans les sols, dans les plafonds.
Il y a le plafond et une partie des cloisonnements intérieurs de ces immeubles étaient également cloisonnés avec des matériaux amiantés. Donc il y en a absolument partout. Et puisqu'on rénove tout ce parc, eh bien, les budgets explosent littéralement, sans parler des problèmes que ça pose, puisqu'on rénove en site occupé. Les locataires et les propriétaires restent dans ces immeubles, et vous imaginez les problèmes, l'inquiétude que ça peut générer, évidemment.
Évidemment. Ce que vous demandez, c'est qu'on déloge, puis qu'on reloge ces habitants, j'imagine, de ces 3 millions d'appartements concernés.
Chaque fois que c'est possible, oui. Enfin, on a l'exemple extraordinaire de la tour Montparnasse. Hein. On n'a pas pris, il y a 20 ans, la décision de l'évacuer pour la désamianter et la réoccuper ensuite. Aujourd'hui, on désamiante certains étages alors que cette tour est occupée, et très régulièrement, il y a des dépassements qui sont dangereux pour les occupants. On voit bien que c'était pas la bonne solution.
Il faut compter 50 000 euros pour désamianter un seul appartement, c'est le chiffrage qu'a fait pour nous Martial Liu du service économie d'Europe 1. Des questions pour vous, maître, monsieur en studio.
Bonjour maître. Vous venez de parler de la tour Montparnasse. On peut parler aussi de Tolbiac. Alors, j'ai quelques amis qui ont travaillé de nombreuses années dans la tour Montparnasse. Ils sont en parfaite santé. Je connais quelques personnes qui ont étudié à Tolbiac il y a bien longtemps. Leur santé n'est pas altérée. Alors, je m'interroge, moi. Je me demande, est-ce que c'est vraiment nocif pour les gens qui habitent dans ces appartements, qui ont vécu dans ces bureaux? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une espèce de psychose et de vraiment faire peur aux gens? Que les gens qui ont monté ces immeubles, qui étaient en contact direct, aient des problèmes de santé, je le conçois vraisemblablement. Mais pour les gens qui y habitent, est-ce vraiment la vraie vérité?
Merci, monsieur. Alors, Michel Ledoux.
Je vais vous répondre en vous disant que moi, je connais des gens qui ont habité, ont vécu, ont étudié à Jussieu. Et à Jussieu, sur le campus, au jour d'aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de victimes. Il y a des gens qui ont développé des pathologies liées à l'amiante, probablement une vingtaine de décès, et encore, on ne les connaît pas tous, puisque les étudiants se sont dispersés un petit peu partout ensuite. Donc, attention, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on habite dans un immeuble où il y a de l'amiante, on est, tant qu'on ne touche pas à ce matériau, lorsqu'il est éradiqué en respectant les règles de sécurité qui sont drastiques aujourd'hui.
Bien sûr, mais il y a plein de propriétaires ou de locataires qui ont fait des travaux dans ces logements.
C'est le problème. Tant qu'on ne tire pas des câbles, tant qu'on ne perce pas les cloisons et tant qu'on respecte les procédures de désamiantage, a priori, il n'y a aucun problème. Vous avez raison, puisque les victimes dont on parle sont des victimes professionnelles. Ce sont des gens qui ont été contaminés dans les usines qui fabriquaient du fibrociment, dans les usines qui fabriquaient des systèmes
exposition prolongée,
voilà, freinage et d'embrayage. Et là, vous savez que les victimes professionnelles, on nous en annonce plus de 100 000 à l'horizon 2020-2030. Bon, la situation des gens qui vivent dans des immeubles où il y a de l'amiante n'est pas du tout la même. Le message néanmoins qu'on doit faire passer, c'est 1. Le désamiantage doit se faire en respectant rigoureusement les procédures de sécurité. Vous savez qu'il y a des chiffres du ministère du Travail qui sont toujours d'actualité, qui nous expliquent que, je crois, pratiquement 70% des sentiers de désamiantage sont réalisés dans des conditions qui ne respectent pas les procédures de sécurité. Vous vous rendez compte, 70%. Bon. Et puis, deuxième information, quand on vit dans un immeuble où il y a de l'amiante, on ne touche pas aux cloisons, on ne perce pas les murs, et si on respecte ces règles simples, a priori, je dis bien a priori, il n'y a pas de problème.
Michel Ledoux est avec nous, président et avocat de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Vous n'êtes qu'avocat, pardonnez-moi. On a Edica sur Europe1.fr qui s'adresse à Madame Pinel, qui est la nouvelle ministre du Logement. Voici votre premier dossier à traiter dans les plus brefs délais si vous ne voulez pas vous retrouver au pénal d'ici 10 ans, qu'en dit l'avocat ?
Ben, l'avocat dit que effectivement, c'est un conseil judicieux, puisque vous savez que ceux qui n'ont pas traité la situation des ouvriers dans les usines d'amiante font l'objet de plaintes, hein, instruites au pôle santé publique, d'ailleurs depuis 2005, les plaintes datent de 1996. Mm-hmm. Hein. Il y a eu des mises en examen, il y a des procédures devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, et donc effectivement, ceux qui n'ont pas fait leur travail il y a 20-30 ans, aujourd'hui, risquent d'en répondre devant les juridictions pénales.
Et nous avons Claude qui nous appelle de la Tranche-sur-Mer et qui voulait réagir à cette enquête Europe 1. 3 millions de logements HLM en France contaminés par l'amiante. Bonjour Claude.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je voudrais dire, je regrette qu'il n'y ait pas sur votre plateau un haut responsable du ministère du Logement qui aurait pu répondre aux questions que nous nous posons tous. Parce que, enfin, ma question à moi, elle est simple. D'après ce que j'ai entendu sur votre antenne, c'était hier, je crois, ou ce matin.
Hier, absolument.
Il y a 50 milliards de travaux. Alors, où on les fait, où on ne les fait pas. Si on fait, où est-ce qu'on prend l'argent? Si on ne les fait pas, on se retrouve comme il y a 30 ans, autant contaminé de l'honorable monsieur Fabius.
Oui, dans un nouveau scandale. Mais vous avez raison, Claude, c'est exactement ça. 50 milliards d'euros d'ici à 2020. Michel Ledoux va vous répondre, Claude, avant que nous recevions un représentant du logement.
Oui, non, ce que dit l'OIT, c'est que l'amiante en France va coûter, alors en indemnisation et en surcoût de travaux, au moins 50 milliards. Et on voit bien d'ailleurs que d'une manière générale, lorsque l'on fait n'importe quoi en matière de prévention des risques, on le paye. D'abord, c'est les victimes, les gens qui vont développer des pathologies, et tout ça, ça coûte très cher. Et donc la prévention des risques, notamment professionnels, c'est une source d'économie. C'est un message très fort que tout le monde devrait comprendre et entendre.
Merci beaucoup pour votre présence, Maître Ledoux, avocat de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. A tout de suite pour le débat. Faut-il d'abord aider les patrons ou les salariés pour relancer l'économie ?
Wendy Bouchard.
Votre journal, votre débat en public, en direct. Merci de votre présence. Vous participez à cette réflexion sur la baisse des impôts. Faut-il aider en priorité les patrons ou les salariés? Vous savez que le pacte de responsabilité est prêt pour redonner de la force aux entreprises et que le pacte de solidarité a été annoncé par François Hollande pour redonner du pouvoir d'achat aux plus bas salaires avec une baisse des impôts et des cotisations. Est-ce qu'on peut contenter tout le monde? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Et est-ce que la solidarité ne tue-t-elle pas cette faveur accordée aux entreprises? Un nouveau programme qui coûte cher, plus de 60 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Il nécessite donc un effort considérable sur la dépense publique et des priorités. Voilà pourquoi on vous demande quelle est la voie à privilégier, les entreprises d'abord ou les salariés. Nous accueillons pour en parler nos deux puncheuses du jour. Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique, membre du Conseil économique et social, venue avec son petit toutou d'ailleurs, et Marie-Loëlle Lindemann, sénatrice socialiste courant de l'aile gauche du PS. Deux femmes qui s'affrontent sur le sujet aujourd'hui en présence du public qui départagera ensuite les deux argumentaires à l'issue de cette demi-heure de réflexion. Marie-Noëlle Lindemann, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver. Alors, on Merci. Parlait du remaniement hier, c'est un enjeu économique maintenant qui vous intéresse. Et Sophie de Menton, bonjour à vous. Eh bien, je vais vous laisser la parole, Sophie. Vous avez une minute trente pour argumenter, pour nous dire pourquoi, selon vous, il faut d'abord aider en priorité les patrons plutôt que les salariés.
Alors d'abord, j'aime pas le terme d'aider, parce qu'il s'agit pas d'aider, il s'agit de créer des conditions pour que les entreprises puissent se développer, créer de la croissance, donc des emplois. Arrêtons même vous, Wendy, de dire aider, c'est pas des cadeaux aux entreprises, c'est juste
créer des conditions. Je signale qu'on vous a fait réfléchir à la question, vous étiez d'accord sur le terme au téléphone. Hein.
Cadeau ? Jamais.
Aider.
Ah. bon, vous avez dû me convaincre. Ouais. Mais en tout cas, c'est forcément aider puisqu'il s'agit de conditions à créer. Ce que je veux dire, et ce qui est terrible, c'est que là, on est en train de me poser la question et de donner le choix. Est-ce que finalement, on baisse les impôts des particuliers ou est-ce qu'on baisse les impôts des entreprises? Alors d'abord, on a quasi les moyens de ni l'un ni l'autre. Donc la première des choses à faire, c'est de baisser drastiquement les dépenses de l'État. Ensuite, je trouve que c'est une démagogie effroyable et tout le monde va être contre moi parce que je vais dire non, nous n'avons pas les moyens de baisser aujourd'hui les impôts des particuliers. Et croyez bien que je suis la première visée et que ça m'est très désagréable. On n'a juste pas les moyens, ce qui fait que si si on fait ça, on va continuer à s'enliser. Ça veut dire que tous les jeunes qui sont là vont pas arriver à payer nos retraites, vont pas trouver de boulot parce que le coût de l'emploi est trop cher. Ça veut dire que pour un effet immédiat, un effet de maquillage, on va se faire retoquer par l'Europe et on va aller indéfiniment creuser ce fossé de la dette qui est dramatique. Donc la première des choses, vraiment les dépenses de l'État, c'est la base absolue. Je veux savoir où sont ces économies. On continue à s'endetter aujourd'hui. On continue à s'endetter. C'est un drame, il faut le dire.
Vous interpellez les jeunes qui sont ici, lycéens de Montargis. Je ne sais pas si leur préoccupation fondamentale, c'est de savoir s'ils vont payer vos retraites ou s'ils en auront une ou s'ils auront un travail. Absolument. En tout cas, Sophie de Menton, voici vos arguments posés sur la table. Marie-Noëlle Lilleman, 1 minute 30 également pour développer votre argumentaire avant que nous n'en parlions ensemble. Pourquoi faut-il, selon vous, aider à la fois les patrons, les salariés ou quelle est la priorité après tout?
Écoutez, je partage avec Madame de Menton une chose. La France a besoin de croissance et de croissance vite. À la fois pour réduire nos déficits, parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de recettes. Et d'autre part, parce que l'emploi est une priorité absolue. Alors maintenant, comment créer cette croissance? Depuis 2011, on a fait 60 milliards d'augmentation fiscale dans ce pays. De 2011 à 2014. Les deux tiers sont payés par les particuliers. Et il faut bien reconnaître qu'en dépit du fait que le gouvernement soit de gauche, dans les années qui viennent, les deux dernières années, 90% payés par les particuliers. Parce que vous le savez, on a fait ce fameux crédit impôt compétitivité emploi et d'autre part, on a augmenté la TVA. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus supportable pour les particuliers et qu'on a besoin d'injecter du pouvoir d'achat pour que nos entreprises aient des carnets de commandes. Alors, on nous dit en général, c'est pas possible parce que chaque fois qu'on donne du pouvoir d'achat, on importe. Les études montrent que quand on donne du pouvoir d'achat, 18% de notre pouvoir d'achat en moyenne est importé et 82% est national. Mais plus les couches sont populaires, plus la partie nationale est élevée. On tombe à 12 à 14%. Vous le savez bien, quand on a un peu d'argent, on met un peu dans la nourriture, on envoie les gamins en sortie, c'est des dépenses françaises. Mmh. Donc, s'il n'est pas vrai que soutenir le pouvoir d'achat n'est pas favorable à nos entreprises.
Merci Marie-Noëlle Lilleman. Intéressant de dire plus de pouvoir d'achat, donc en soulageant les particuliers pour doper les carnets de commandes des entreprises. C'est la même logique que vous suivez, Sophie
Menton? Malheureusement, non, parce que c'est un raisonnement keynésien. Il faut donner de l'argent par la relance. Et il se trouve que nous ne sommes pas du tout dans la même situation que l'Allemagne ou l'Italie d'ailleurs, que nous avons une dette avec un commerce extérieur qui est dans une situation dramatique. Mmh. Ce qui fait qu'on importe plus. Et c'est vrai, vous l'avez dit, mais malheureusement, on n'a pas les mêmes chiffres parce que il est évident que la dépense qu'on va faire en investissement, etc., va bénéficier à des produits importés. Donc, c'est la première des choses. Et ensuite de ça, je ne crois pas, au-delà de ça, même à la relance par la consommation. On le sait très bien, c'est vrai que la consommation des ménages, on l'a soutenue assez longtemps et que c'est important. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas parce que nous sommes en train aujourd'hui, y compris dans nos impôts d'ailleurs, nos impôts ne rapportent plus d'argent. Pourquoi? Parce que ça, je suis d'accord avec vous, on a tellement pompé les gens et pas les classes populaires qui sont quand même heureusement épargnées, mais qui sont vraiment épargnées. C'est les classes moyennes sur lesquelles on tire. On tire sur les classes moyennes. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il faudrait?
La TVA, elle touche les couches populaires plein pot.
Elle touche les couches. Alors figurez-vous qu'elle est très juste. Pourquoi? Parce que tous ceux qui dépensent plus et qui ont plus d'argent, ils paient
ça,
beaucoup plus de TVA.
Ceux qui peuvent consommer,
mais bien sûr que oui.
Sauf qu'en proportion de revenus, c'est très peu.
Ben, je suis d'accord pour mettre, par exemple, si vous avez envie, je pense qu'il faudrait augmenter la TVA. Qu'elle soit plus chère sur le produit luxe, pourquoi pas. Qu'elle soit plus chère sur des produits importés, pourquoi pas.
Mais on n'a pas
à condition qu'on ait le droit, voilà.
Voilà, vous savez bien.
Oui, mais je veux dire que là, déjà, on a fait un clivage sur la TVA, parce que les produits de base n'ont pratiquement pas augmenté. Mais alors, sans vouloir, puisque vous voulez, finalement, tenir le pouvoir d'achat. Vous avez fait, pardon, je dis vous, mais c'est le gouvernement, a fait des erreurs fondamentales. La première des choses, et vous allez voir les faits qu'on va subir, l'histoire des mutuelles. Il va y avoir sur les feuilles de paye, on fait la déclaration aujourd'hui, les mutuelles ont été imposées. C'est très sympathique, soit, même auprès de gens qui n'en voulaient pas, imposées aux entreprises. Les salariés, nos salariés, arrivent nous voir en disant « Mais vous avez vu ce que je vais payer comme impôt en plus ?» On a eu le même coup avec la défiscalisation et on n'a rien vu, parce qu'on n'a eu que 6 mois de la punition, entre guillemets, que c'est sur les feuilles de salaire
de nos employés. Va vous répondre sur les
nous,
sujets,
dans les boîtes, on est en train d'essayer de compenser ce que vous leur avez piqué en douce.
Écoutez, moi, les choses sont claires. D'ailleurs, je ne soutiens pas systématiquement ce qu'a fait le gouvernement. La preuve, j'explique qu'on a trop fait pour certaines entreprises qui n'en ont pas besoin.
Et trop de pression sur les ménages.
Voilà, je le dis très nettement. L'industrie française, nos secteurs exportateurs ont besoin, dans bien des cas, d'être aidés. Il faut remonter notre industrie. Donc là, moi, je suis d'accord.
Mais comment ?
Attendez 30 secondes.
Oui, oui.
Le CICE qui a été fait sans cibler. Donc on dépense 20 milliards et on annonce qu'on va en faire 30. Donc la grande majorité va dans des secteurs qui n'en ont pas besoin. Je m'excuse, mais je ne pense pas que Auchan, Carrefour, la grande distribution aient besoin d'aide fiscale parce que c'est pas ça qui va les faire recruter. Par contre, qu'on aide nos entreprises à muter pour faire l'investissement de modernisation, pour gagner des parts de marché, d'accord. Mais il y a de l'argent sur les 30 milliards. Je propose qu'on en remette au moins 10 pour leur mettre sur du pouvoir d'achat, car ça va être utile aussi aux entreprises.
Mais il vous a entendu.
Attendez,
François Hollande.
Je vais au bout. Le pouvoir d'achat dans les entreprises, c'est des carnets de commandes.
Évidemment.
Ça se retrouve entre des carnets de commandes.
Merci.
Donc il faut pas opposer le salarié et l'entreprise.
Et l'entrepreneur et le patron.
C'est fondamental. Mais il faut cibler où on met les aides.
Alors,
terminer les dividendes versés en France.
Nous sommes
dans le pays du monde, le troisième pays pour verser du dividende au capital.
Avec des grandes hétérogénéités.
Oui.
On va pas aborder le sujet des dividendes, on y vient tout de
suite.
Oui,
bien sûr, jamais celui-là.
Oh là là, ça j'en rêve. Parce que le dividende, c'est le prix du risque qu'il faut investir dans nos PME.
Allez-y, parce que Marina Lindman dit, on n'oppose pas les salariés et les employés.
À ce que vous disiez. Excusez-moi, oui. Vous êtes en train de flinguer, et je vous en remercie, le CICE. Vous avez tout
J'ai
à fait
voté
raison.
Contre.
Mais vous avez tout à fait raison, moi aussi. Parce que ça a été une espèce d'usine à gaz pour faire semblant de baisser le coût du travail. C'est-à-dire, comme on n'avait pas les moyens de donner l'argent, et les caisses sont vides, c'est navrant, et je comprends que ce soit difficile, on s'est dit, bon, on va retarder d'un an, on va faire une usine à gaz, et ça, ils sont extraordinaires, bravo Bercy, et on va faire un crédit d'impôt, même pour les entreprises qui ne paieraient pas d'impôt.
Le MEDEF qui était très content, hein, très content.
Le MEDEF, il prend ce qu'il peut. Parce que de toute façon, il est tellement flagué qu'il prend ce qu'il peut.
Rien, hein.
Alors, donc le CICE n'est pas une bonne idée. Et le problème, et je comprends bien que vous ayez toujours envie, c'est le problème de l'État. C'est-à-dire qu'il veut toujours décider où va l'argent, à qui, faire des effets de seuil.
Ça s'appelle l'arbitrage, Sophie de Menton. Mais moi, ce que je voulais dire...
C'est pas de l'arbitrage, c'est des effets de seuil.
Ce que je voulais dire, Sophie, c'est que François Hollande, finalement, a entendu Marie-Noëlle Lindman, par exemple, en adossant au pacte de responsabilité, ce pacte de solidarité. C'était une manière de dire, vous voyez, on n'aide pas que les employeurs et les patrons. C'était la communication, d'abord pour vous, ou dans les faits, c'est possible.
Non, moi, ce que j'ai peur, c'est que derrière ça, il y ait ce que j'appelle le pâté cheval-alouette.
C'est-à-dire
on met 50 milliards, 30 milliards pour les entreprises dont je vous ai dit que je pensais qu'une partie était utile et l'autre partie, ça va se retrouver en dividende. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit on va quand même faire quelque chose pour les salariés. Alors moi, je dis très bien le quand même, ce qu'on va faire pour le salarié, mais il faut que ce soit à hauteur de ce qu'on fait de l'autre côté.
D'accord,
pourquoi ?
Pour vous, c'est d'abord.
Il y a une autre raison économique. C'est que le temps que les entreprises mutent pour devenir performantes à l'exportation, ça va mettre 3, 4 ans, 5 ans. Or, aujourd'hui, la France est dans une démoralisation collective et nos PME dont on parle, Madame de Menton, elles ont besoin tout de suite de commandes. Donc, il faut un relais entre le moment où on monte un investissement et le moment immédiat où on doit injecter du
pouvoir
d'achat.
Alors, là où vous avez raison, et il faut le savoir, et là, le problème, c'est qu'on n'a jamais été capable de dire la vérité aux Français, c'est que pour retrouver la croissance, il faut investir et que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quelles que soient les mesures, même si elles sont bonnes, elles ne seront pas efficaces avant au moins un an ou un an et demi au mieux.
Donc on ne s'arrête pas dans 15 jours au pacte de responsabilité.
Sauf le pouvoir d'achat, qui lui a un impact immédiat.
Direct.
Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'encore une fois, ce pouvoir d'achat
pour
est
factice. Pour les couches populaires, sinon les gens y parlent.
Oui, mais alors c'est qui les couches populaires? Les classes moyennes, elles n'ont plus rien. On a enlevé les aides à la famille, on les taxe sur tout.
Allez Sophie, demandez-vous. C'est pas le sujet du jour.
On est en train d'être au bord de la mort et de ne pas pouvoir vivre correctement dans ce pays.
S'il vous plaît, la baisse des impôts, mesdames, la baisse des impôts, voilà le sujet du jour.
Je vois des tas de gens qui vivent
très bien. Faut-il aider en priorité?
Faudrait les arrêter un peu les vacances, ça irait beaucoup mieux de ne pas investir tout en vacances.
Sophie, demande. Merci. Faut-il aider en priorité les patrons ou les salariés? Vous n'aimez pas le terme aider, mais c'est ce que je dis. Sophie de Menton considère qu'il faut aider d'abord et soutenir d'abord, encourager l'entreprise avec la baisse des charges pour les patrons. Et Marie-Noëlle Lindemann considère qu'il faut de redonner de l'oxygène, du pouvoir d'achat aux particuliers. La gauche a trop taxé les particuliers ces deux dernières années en particulier. Vous réagissez aussi dans ce studio 3921. On a Odile, Brigitte et Jérôme qui veulent intervenir dans ce débat. À tout de suite, juste après la pause.
Europe 1, Europe Midi, votre journal, Wendy Bouchard.
En direct et en public, les auditeurs ont la parole dans un instant sur le débat du jour. Faut-il aider en priorité les patrons ou les salariés en baissant les impôts? Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique, considère qu'on n'a pas les moyens de baisser les deux et qu'il faut d'abord donner de l'oxygène aux entreprises pour embaucher. Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice socialiste, soutient le contraire. Il faut maintenant, même si l'emploi est une priorité, redonner du pouvoir d'achat aux particuliers. Deux femmes qui s'affrontent et vos argumentaires en studio. À vous, chers auditeurs, pour faire évoluer aussi le débat et le discours jusqu'à 14h. Monsieur,
oui,
bonjour.
Je voulais simplement dire une petite chose qui me frappe, c'est que quand il y a une ristourne fiscale aux entreprises, ça pose apparemment un problème, et quand c'est une ristourne aux citoyens ou à l'administré, ça pose pas de problème déjà. On est tous dans la même barque, entreprises ou citoyens, c'est la même chose. Les ristournes d'un côté ou de l'autre, ça donne le même résultat ou le mauvais résultat. Mais...
Oui, est-ce qu'on trouve l'argent plus facilement pour les citoyens que pour les entreprises,
Marie-Noëlle Lindemann? Moi, ce que je pense, où vous avez raison, c'est que c'est pas... Ça dépend quelles entreprises, quels citoyens. C'est-à-dire, c'est plus l'orientation dans laquelle on fait les choses. Pourquoi je plaide aujourd'hui sur un effort sur la fiscalité pour les salariés et les citoyens, mais en ciblant les salariés, parce que je pense qu'en plus, en France, on a besoin de revaloriser les salariés qui, eux, ont le sentiment qu'ils travaillent et qui sont de moins en moins en capacité de vivre correctement. C'est important pour la valeur travail, c'est important pour la société. Mais moi, comme je vous le disais, je ne suis pas hostile à ce que certaines entreprises soient aidées. Il est clair aujourd'hui que si on veut faire muter des grands secteurs industriels qui ont pris du retard, ou si on veut faire émerger des nouvelles technologies, par exemple, dans tout ce qui est l'environnement, les économies d'énergie, la nouvelle chimie verte,
ils vont le faire
etc.,
ailleurs, hein.
Nous avons impérativement besoin de leur donner les conditions de développer leur activité. Mais pour le coup, aujourd'hui, en grande masse globale, justement, cette homogénéité fait que massivement, on donne des aides. Donc, je vous disais que, par exemple, l'essentiel va dans des secteurs qui sont ni les créateurs d'emplois, ni les secteurs les plus importants pour notre balance commerciale. Oui, oui. A contrario, quand vous donnez à des gens aisés, beaucoup d'impôts, ils augmentent leur livret, leur épargne, et ils ne consomment pas. Donc il faut trouver un juste
équilibre.
On a l'impression qu'il y a des gens, des citoyens qui placent mal leur argent, qui sont contre-productifs, etc. Puis on a l'impression que les entreprises sont toujours des gens malhonnêtes, plus ou moins.
Alors, c'est malheureusement pas faux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un tel départ d'entrepreneurs ailleurs, ils vont monter leur boîte ailleurs. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental, on donne un mauvais signal. Ensuite de ça, je ne pense pas, à la limite, moi je rêve qu'il n'y ait pas d'aide. Je veux dire, rendons effectivement l'environnement économique.
Donc le pacte possible de responsabilité, ça sert à rien pour
Le pacte de responsabilité, enfin, d'abord, il a un avantage, c'est qu'il a fait comprendre.
Oui, c'est pas
à
ce que dit
France.
M. Gattaz.
Il a fait comprendre à la France, et c'est pour ça que je pense que Gattaz a eu raison, qu'on pouvait pas créer de l'emploi si on restait sans réforme. Mmh. On ne pouvait pas. Donc le fait de dire, moi je crée de l'emploi si vous faites quelque chose, c'était faire prendre conscience au pays. Ça, c'est déjà un atout. Finalement, c'est un axe de com. On devrait pas avoir besoin de faire un faux pacte. C'est un faux pacte qui d'ailleurs immédiatement est tempéré parce que la moitié du gouvernement disait « Ah mais non, c'est des cadeaux », l'autre moitié disait « On fait un pacte ». Et alors, il y a aussi un problème terrible, c'est que ce gouvernement ne sait tellement pas où il habite qu'il est en train d'essayer de faire des réformes en douce. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Premier ministre, pardonnez-moi, quand j'ai écouté ce qu'il disait à la télévision hier soir, j'étais atterrée. Je pensais, moi j'ai beaucoup d'espoir dans Manuel Valls, je pensais qu'on allait avoir un cap, qu'on allait avoir... Il était là, on est tous des Hollandais, mais non, je vais aider, oh là là, les impôts c'est terrible, mais oui, les gens sont pauvres. Il savait plus où il allait, et j'ai été très inquiète.
Je partage votre avis sur l'idée qu'il faut la clarté et un cap. Moi, je pense qu'en France, on a une crise de notre légitimité fiscale. Parce que notre système fiscal n'est plus lisible, n'est plus juste, ne va pas forcément...
Et le ras-le-bol fiscal, vous l'avez relayé.
Donc moi, de ce point de vue, ce qu'avait dit Hérault, mais il ne l'a pas fait. c'est qu'il est temps de remettre à plat. D'ailleurs, Hollande avait dit pendant la campagne.
Je suis bien d'accord avec vous.
Et il faut, dans certains cas, rééquilibrer entre les PME et les grosses entreprises, entre une partie des activités, des catégories sociales, répartir plus justement. Il y a un problème de lisibilité. Qu'est-ce qu'on donne pour aider les familles, etc. Et tout ça est devenu illisible.
Alors, s'il vous plaît, on a Brigitte qui nous rejoint de Bandol dans cette discussion. Bonjour Brigitte.
Bonjour mesdames.
Mais alors je vais vous poser la question, chère Brigitte. Faut-il aider d'abord pour vous les patrons ou les salariés pour relancer l'économie ?
Alors déjà, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour madame Sophie de Menton. Voilà. Alors pour moi, et si on aide les patrons, on aide le personnel. Parce que les patrons, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont moins de charges ? Ils vont obligatoirement embaucher. Peut-être pas tout de suite, parce que il faut refaire, un petit peu de trésorerie. Mmh. Alors, ce qui est embêtant avec les partis de gauche, c'est de dire on fait des cadeaux au patron. Mais c'est pas une question de faire des cadeaux, c'est une question de créer de l'emploi. Et si les charges sont toujours aussi lourdes, toujours aussi importantes, c'est impossible. On va pas s'engager en plus à prendre quelqu'un ou plusieurs personnes avec en plus les carcans. Il faut déverrouiller, il faut enlever les boulons.
Oui.
Il faut la flexibilité, il faut l'enlever. Il faut qu'un patron puisse, quand il a un carnet de commandes, embaucher, et quand il a plus pouvoir débaucher, et puis l'autre entreprise à côté va peut-être
pareil,
embaucher.
Un cercle vertueux. Bah, Brigitte, merci beaucoup.
Moi, je suis navrée de voir ça. C'est que on recrute plus en CDI. Vous avez vu, on a explosé les CDD parce qu'il y a une prise de risque que le patron ose plus prendre. Alors, et je reviens là-dessus. D'ailleurs, vous avez parlé de l'épargne en disant c'est une autre, on va épargner. On a besoin de cette épargne. Et le gouvernement récemment a monté un PEA PME qui était destiné à drainer l'épargne vers les PME, ce qui prouve bien qu'on a besoin d'épargne. Sauf qu'ils sont complètement gourés, qu'on nous a annoncé. C'est ça que j'ai mis de l'argent tout de suite, moi. On m'a dit, madame, on peut pas prendre votre argent parce qu'on sait pas du tout qui aura droit de le mettre et ce qu'on va en faire. Donc déjà, ça ne peut pas fonctionner. Et d'un. Et de deux, on a juste oublié que on n'a pas le droit au sein de l'Europe de faire une forme de discrimination.
Absolument,
et que notre argent va aller, ce qui est quand même ma gague, risque d'aller aux entreprises étrangères.
Sophie de Menton,
c'est l'Europe, vous l'avez voté,
Rappelle le discours qui nous réunit. Faut-il aider en priorité les patrons, les salariés?
J'ai voté contre
Sophie
la Ligue.
C'est pas l'Europe qui est coupable.
On m'écoute énormément dans cette émission.
C'est la loi européenne.
On n'est pas capable de la suivre.
Sophie de Menton, Marie-Noëlle Lindemann. Je remercie Brigitte qui vient de nous appeler. Il y a une demoiselle qui veut réagir en studio aussi. Mais Odile est encore sur cette réponse, ce questionnement sur la relance par l'entreprise. Bonjour Odile, vous nous appelez de Seine-et-Marne. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. Bien moi, écoutez, je dis qu'il faut absolument aider les entreprises, mais surtout les petites entreprises, les artisans qui ont fermé par centaines, c'est eux qui font l'emploi en ce moment. Hein. Alors, on a fait une hausse d'impôts, ils ont tout pris en pleine face, ils ont fermé boutique, et puis maintenant, on est en train de créer des usines à gaz pour essayer de redonner un petit peu d'air, mais c'est dramatique ce qui se passe dans tous les sens, il n'y a aucune gouvernance, et surtout, il faut réformer le code, tous les cas, mais tout doit jusqu'à Z, quoi.
Odile, vous étiez artisan décoratrice, voilà la question que me posait Marie-Noëlle Lindemann, qui vous répond si vous souhaitez sur le sujet.
Non, mais c'était d'abord de savoir dans quel secteur madame travaillait. Parce que, par exemple, prenons le bâtiment, un sujet que je connais bien. Il y a aujourd'hui une grande crise.
C'est la décoration, son secteur.
Voilà, il y a une grande crise dans le bâtiment qui est pas liée au prix du travail, qui est liée au fait que quand il y a plus d'investissement public dans le secteur,
merci Cécile Duflo.
Attendez, c'est pas Cécile Duflo, c'est globalement.
Fait baisser l'immobilier.
Si
comme
on
non, madame,
Liman,
cette décision, elle a été prise par Nicolas Sarkozy supprimé l'amortissement cellier qui coûtait 20 milliards puisque vous voulez des économies.
C'était pas mal, Cécile.
Elle coûtait 20 milliards à l'État. Hein. Alors donc,
en tout cas,
fait
l'immobilier était en hausse.
Non,
maintenant, il est
prix,
en baisse.
Mais justement, c'est un des problèmes du pouvoir d'achat des Français par rapport à l'Allemagne que vous prenez souvent en modèle. Le prix du logement, madame, en France est
élevé.
Et une fois et demie supérieur le prix du loyer à ce qui se passe en Allemagne, et ça plombe le pouvoir d'achat. Si on pouvait limiter ça, on pourrait aussi
encadrer les loyers. Alors là, on est carrément ruiné, c'est la catastrophe.
Dans le sujet de l'encadrement, je pourrais vous en parler, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire à cette dame, c'est que de mon point de vue, en effet, le mode de calcul des cotisations qui pèse sur les entreprises est mal organisée en France. Car il y a des tas d'entreprises qui ont beaucoup de salariés, qui donc payent beaucoup de cotisations, alors même que des entreprises qui font beaucoup de profits sans salariés n'en pèsent pas du tout. D'ailleurs, même Jacques Chirac avait fait la proposition que les cotisations sociales soient adossées tout ou partie sur la valeur ajoutée créée dans l'entreprise.
Je suis pas contre.
Pour que ce soit plutôt l'enrichissement de l'entreprise qui soit taxé et pas simplement le nombre de salariés, car vous avez, c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas tout à fait tort de me critiquer quand je vous dis qu'on a le record des dividendes, c'est que les grandes entreprises pompent les dividendes avec la sous-traitance des petits qui eux se prennent les salariés.
Marie-Noëlle Lindemann, je savais que vous entendriez à un moment donné avec Sophie de Menton, vous avez quelques points communs quand même, regardez. Alors on va procéder au vote s'il vous plaît avec en présence de lycéens de première ES de Montargis, du lycée En Forêt de Montargis, pour considérer que le discours qui vous touche aujourd'hui, c'est celui de Marie-Noëlle Lindemann. Vous l'avez entendu à l'instant, l'emploi c'est une priorité, mais en priorité, il faut toucher le pouvoir d'achat des salariés et baisser la pression fiscale. Vous votez rouge en studio pour considérer que c'est Sophie de Menton qui vous a convaincu en donnant le moyen d'abord à l'entreprise de s'oxygéner avant les salariés. Vous votez
c'est
bleu, bleu et rouge. Ah bleu pour Sophie de Menton, rouge pour Marie-Noëlle Lindemann. Vous votez dans ce studio. Je précise que ce n'était pas un vote scientifique, évidemment. C'est l'humeur du jour sur le débat qui nous réunissait sur Europe 1 en direct et en vidéo sur Europe 1.fr. Combien de bleus, mesdemoiselles? 26 bleus et 22 rouges. Eh bien, c'est Sophie de Menton. Le pacte de responsabilité.
Ça doit être assez proche de ce qui se passe dans la société.
Ouais, 26. Sophie de Menton, oui, le pacte de responsabilité qui.
Donc, je suis majoritaire de la société.
Dépasse Marie-Noëlle Lindemann. Voilà, merci en tout cas pour ce discours. Sénatrice socialiste et courante de l'aile gauche, Marie-Noëlle. Et bonjour à vous, Franck Ferrand, depuis
bonjour,
le Salon des Seniors.
Wendy. Bonjour. Mais oui, nous sommes effectivement porte de Versailles au Salon des Seniors pour vous présenter une émission avec Gilbert Sinoué sur Gandhi. Alors vous allez dire encore Gandhi, bien non, car le Gandhi que nous allons vous présenter cet après-midi est un autre Gandhi, c'est celui des jeunes années et c'est celui surtout d'une relation tout à fait ambiguë, étonnante, une amitié pour le moins forte avec un personnage qu'on ne connaissait pas jusqu'à ce que Gilbert Sinoué nous le fasse connaître. Voilà, c'est donc dans quelques minutes ici, Porte de Versailles.
Merci en direct, évidemment, après l'info à 14h. Merci de votre présence, midi 30, 14h, dans cette Europe Midi. Revenez demain et puis passez un bon après-midi, une bonne après-midi à l'écoute d'Europe 1. À demain, merci encore.